Je vais enlever mon manteau. Je ne sais pas qui s'occupe du chauffage ici, mais c'est bien chauffé. C'est un jour un peu particulier aujourd'hui, puisque pour plusieurs d'entre nous, on est appelé à faire un choix pour notre pays. Mais je ne vais pas du tout vous parler de ça. Même si j'aurais pu vous dire, attention, il y a le risque des communistes. Attention, il y a le risque d'extrême droite. Mais non, je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus important et qui nous importe beaucoup plus. C'est moi. Quand je dis moi, c'est moi, mais vous, chacun pour soi. Je voudrais vous parler de motivation et de leurs différents ressorts. Et cette semaine, il m'en a fallu beaucoup pour pouvoir caser tout ce que j'avais à faire. Et j'aime bien dire parfois, les journées ne font que 24 heures, mais si elles en faisaient 28 ou 30, ça m'arrangerait. Et il y a quelques temps, j'ai pu assister à la soutenance de mémoire d'un jeune de ma société. Et son sujet était la motivation au travail d'une équipe de commerciaux indépendants. Sujet fort intéressant, je vous l'avoue. Mais moi, j'ai trouvé très intéressant le recul qui m'a fait prendre sur mon métier, sur ce qui me motivait à faire mon travail, parfois bien, parfois moins bien. Et depuis cette soutenance, je vous avoue qu'également, j'ai complètement perdu l'envie de faire le travail que je fais actuellement. Et si vous voyez sur les petits papiers que je cherche du travail, bah, ça a été un déclenchement. Je passe mes journées seul avec mes clients, parfois avec mes concurrents. Et il est parfois difficile pour les commerciaux et pour moi de trouver une motivation dans mon travail. On a tous besoin parfois d'un « allez, courage !» ou d'un « bien joué !» ou alors d'un « bon travail !» Quoi qu'il en soit, je vais lui emprunter à mon protégé une partie de ses recherches sur le sujet de la motivation. Mais avant ça, je vais vous passer un petit film qui illustre ce qu'est un discours sur la motivation. Alors, un petit peu de technique. Soyez patient, soyez motivé. Thank you.
et moi. Et on peut y rester, se permettre de dérouiller, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfance, 1 centimètre à la fois. Mais ça, je ne peux pas le faire en tout cas. C'est trop beau. Je me regarde. Je vois ce que j'aime la défense. J'ai fait tout le mode de choix de maintenant pour 2 ans, je sais. D'accord ? J'ai claqué du pognon. Croyez-vous pas. J'ai fait filer là. Tous ceux qui m'ont jamais.
Bon, vous pouvez m'excuser, voilà ce qui arrive quand on improvise un petit peu. La vidéo n'était pas prévue, ça s'est vu. Voilà un petit peu une idée de la motivation. Alors, comment définir la motivation ? Des chercheurs très qualifiés ont su définir cette notion. Alors, on a Berelson en 1983. La motivation est un état interne qui donne l'énergie, fait activer ou fait déplacer et qui dirige ou canalise le comportement vers un but. Beaucoup de mots, on va en reparler après. La motivation est une force énergétique qui stimule le comportement humain pour la réalisation d'un but défini. Elle est un mélange de dispositions internes et d'opportunités externes qui dirigent ou canalisent le comportement humain. Typiquement, c'est ce qu'on a vu, hein, Al Pacino qui haranguait ses troupes. C'est une équipe qui ne marchait pas du tout, qui était complètement désunie, il n'y avait aucun esprit d'équipe. Et il a su canaliser l'énergie de tous ces gars. Et on va voir, dans ce match, dans ce film, vous ne le verrez pas tout de suite, mais en tout cas, ils vont gagner ce match. Lévi Boyer, en 1984, la motivation est un processus qui implique la volonté d'effectuer une tâche ou d'atteindre un but. Et en dernier, Amblard, en 89, la motivation est la force qui initie un comportement et l'oriente vers un but dont l'atteinte procurera une réponse satisfaisante à un besoin. Et la réponse satisfaisante à un besoin, on va en parler tout à l'heure également. De ces différentes définitions, on peut donc considérer quelques points communs. D'abord, le fait que la motivation soit orientée vers un but à atteindre. Sans but à atteindre, il n'y a pas, en général, pas de motivation. La motivation canalise notre volonté et nos efforts. Et enfin, elle ne dépend pas uniquement de nous-mêmes, mais peut dépendre de facteurs externes, c'est-à-dire de l'encouragement, comme on vient de l'entendre, une récompense si le but à atteindre, une récompense si le but est atteint. Ça peut être par exemple un salaire pour un travail. Jusqu'ici, tout va bien ? Est-ce que j'ai tout le monde avec moi ? Ici, j'ai un but aussi, et c'est ce qui me motive à continuer dans mes explications. Rien à voir, ou presque. Avec les ados, il y a quelques années, nous avons fait une série de classes qui décrivaient toutes les relations qui faisaient notre vie. Il y avait 4 dimensions. La première, c'était les relations entre moi et moi, les relations qu'il y a entre le monde et moi, les relations entre mes frères et sœurs en Christ et moi, et enfin, la relation qu'il peut y avoir entre Dieu et moi. Et je leur ai demandé d'être honnêtes et de faire une hiérarchie dans les relations entre elles, et de me donner laquelle concentrait le plus leur énergie et leur effort. Et pour que ça marche, bien évidemment, il fallait qu'ils me citent les relations entre moi et moi. Et c'est ce qu'il en est ressorti. En général, ce qui nous motive le plus, ce qui mobilise le plus notre énergie et nos efforts, c'est notre relation à nous-mêmes. Nous sommes naturellement portés à être égoïstes. Et ce qui nous accapare le plus de temps et d'énergie, eh ben, c'est la défense de nos intérêts. De nos propres intérêts. Et certains peuvent dire, c'est pas tout à fait vrai, mais hélas, c'est le cas. Et si c'est pas forcément de l'argent, si c'est pas forcément le regard des autres, eh ben ça va être peut-être une bonne estime de soi, un bon regard sur soi-même, toutes ces choses, mais c'est encore notre intérêt. Et notre propre intérêt va même passer devant Dieu. Alors ça paraît abrupt comme ça, mais j'aimerais illustrer cette idée par une autre notion de management dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la pyramide de Maslow. C'est une théorie qui est très incomplète, mais qui met à jour un bon nombre de choses en nous, les facteurs de motivation. Et on va en parler. J'avais laissé passer, effectivement. Donc, la pyramide de Maslow, elle se divise en général en 5 besoins majoritaires. Je ne sais pas si tout le monde voit. C'est clair ? Non ? Alors, je vais en parler. Alors c'est une échelle des hiérarchies des besoins, selon Maslow. Et donc, il y a 5 besoins différents. Donc, le premier, c'est le besoin de maintien de la vie. Donc, c'est les besoins les plus primaires. Donc, les besoins les plus primaires, dans un premier temps, c'est la faim, la soif, la sexualité. Donc, ce sont tous des besoins qui sont liés à la survie des individus ou de l'espèce humaine. Donc, ça sont vraiment les besoins les plus basiques. Les besoins les plus basiques. Le second besoin, c'est le besoin de sécurité, qui consiste à se protéger contre les différents dangers qui nous menacent. Et donc, comment est-ce qu'on répond à ce besoin? Eh bien, ça va être de construire une maison, par exemple, d'accumuler, de mettre de côté, de s'occuper de sa santé, de privilégier la stabilité. En tout cas, c'est tout ce qui va permettre de conserver un existant, un acquis. Et on est plutôt dans une dimension temporelle du maintenant ou du demain, mais très proche. Vraiment, on ne va pas se projeter plus loin que ça. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Donc ce besoin d'appartenance révèle la dimension sociale de l'individu, qui a besoin de se sentir accepté dans les groupes dans lesquels il va vivre. Et donc, ces différents groupes, ça va être la famille, ça va être le travail, ça va être une association à laquelle on va participer, ça va être bien entendu l'Église. Et l'individu va se définir par rapport à ses relations. Il va avoir besoin de sentir une dépendance, lui, vis-à-vis des autres, mais également les autres vis-à-vis de lui. Il va avoir envie d'obtenir un statut social, de s'intégrer à un groupe, de partager, mais également d'être aimé. Le quatrième besoin, c'est le besoin d'estime. Et donc, ce besoin prolonge celui d'appartenance. L'individu souhaite être reconnu en tant qu'individu, en tant qu'entité propre au sein d'un groupe. Et donc, ça va vouloir dire quoi concrètement? Ça va vouloir sortir du lot. On va vouloir sortir du lot. On va vouloir être reconnu et apprécié pour sa contribution. On va vouloir s'affranchir, exprimer sa compétence. Le dernier besoin qui est généralement partagé, c'est le besoin d'accomplissement. Le besoin, là ici, c'est le besoin de réalisation. Et ce besoin-là, c'est le sommet des aspirations selon Maslow. Il vise à sortir d'une condition purement matérielle pour atteindre l'épanouissement. Ça va être de méditer, ça va être d'approfondir sa culture, d'affirmer son caractère unique, dépasser ses limites, en tout cas dépasser sa propre personne. Et j'ai un petit exemple à ce sujet-là. Hier, avec Jacques Rémy, on est parti dans les Vosges, donc un voyage express de 24 heures. Et il s'agissait de grimper un petit col et d'en rejoindre deux autres et terminer une randonnée de 4h30. Alors, pour ceux qui connaissent Jacques Rémy est un homme de la nature. Et j'ai pu m'en rendre compte. Avec un opinel et une gourde d'eau, traverse les Alpes, les Pyrénées, le désert. Il n'y a rien qui lui résiste. Mais alors moi, c'est tout le contraire. Et lorsqu'il m'a parlé de randonnée, moi je lui ai dit, allez, allons-y. Et l'idée était d'en choisir une assez difficile pour que je puisse m'approcher de mes limites, alors que je n'avais aucune expérience. Et mes limites, on peut dire que, même si je ne les ai pas atteintes, lorsqu'on a traversé des portions à 30 ou 40 degrés sur plusieurs centaines de mètres, j'ai vraiment pu dépasser l'idée de ce que je pouvais faire physiquement. Et le souffle court, surtout quand Jacques Rémy a accéléré, j'ai pu comprendre ce que c'est que le dépassement. Et voilà un petit peu ce qu'on recherche. Voilà une idée de s'accomplir, de dépasser ce que l'on pense être capable de faire ou d'être. Il existe une hiérarchie dans tous ces besoins et quand on le voit comme ça en pyramide, on ne peut pas accéder aux besoins d'après lorsque le précédent n'est pas complètement atteint. Par exemple, une personne qui est démunie, qui a faim le jour, son besoin d'appartenance ne se fera jamais sentir, n'en aura pas besoin. A contrario, un employé dans une entreprise, à partir du moment où il se sent intégré, à l'aise dans son poste et avec des résultats, il aspirera à de plus grandes responsabilités. Et ça va satisfaire son besoin d'estime et de reconnaissance. Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? J'ai tout le monde? Quelques têtes, signes de tête. Okay. C'est un modèle imparfait, je le reconnais, mais intéressant dans la mesure où il décrit les besoins qui parcourent et traversent notre vie. Mais à ce point de ma présentation, je me pose une question. Sommes-nous appelés à faire à ce point de nous-mêmes le centre de nos vies? Je l'ai dit tout à l'heure en blaguant, en disant que le sujet le plus important à traiter aujourd'hui, c'était nous-mêmes. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que nous-mêmes doit être le sujet le plus important pour nous? Remporter. Alors non, c'est pas ça. Je l'ai dit tout à l'heure concernant la classe que j'ai faite avec les ados, la relation entre moi et moi doit-elle vraiment prendre autant de place dans notre vie? Et il apparaît sur ce tableau un dernier besoin qui existe. Il est très peu partagé et j'avoue, lorsque j'ai cherché cette pyramide de Maslow, j'ai trouvé qu'une seule fois, en tout cas qu'une seule fois en français. C'est le besoin d'éternité. C'est le sixième besoin. Et celui-ci concerne, alors je vais prendre dans le commerce, presque celui de la vanité, en tout cas pour le commerce, puisque c'est les produits qui concernent le rajeunissement. C'est cette recherche de la source de jouvence. Ce besoin est occulté car il nous pousse à nous poser cette question, non pas de demain ou de maintenant, mais celle de notre fin. Quelle est notre fin? Est-ce qu'il y a un après? Et c'est le besoin le plus important, car c'est celui qui donne du sens à tout le reste. Vous vous souvenez, la motivation est orientée vers un but, et c'est ce qui est source de notre motivation. Et on le voit dans notre monde qui est sans dessus-dessous. Lorsque le but de notre motivation est l'argent, donc qui peut être très vite atteint, ben, notre vie perd de son sens. Lorsque, pour des jeunes, le but de leur vie, c'est d'être reconnu par les autres, ce but est très vite atteint et la vie perd de son sens. Et on se retrouve dans une société qui a un très fort taux de suicide chez les jeunes. Alors que tout leur est acquis, alors que tout est à disposition, on est dans une société où on se supprime soi-même parce qu'on n'a plus de sens dans notre vie. Alors, quel but va-t-on poursuivre? Quel but a notre vie? C'est le verset d'aujourd'hui en Philippiens chapitre 3, au verset 12 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Remporter le prix de la vocation céleste. Voilà ce qui donne du sens à notre vie. Voilà, j'espère, en tout cas pour nous tous, le but de notre motivation ici ce matin. Et dans cette nouvelle pyramide, on le verra tout à l'heure, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de pyramide même, puisque celui qui nous a appelés, notre Père, subvient, lui, à tous nos besoins. Alors, comment est-ce que Jésus, comment est-ce que Dieu, notre Seigneur, répond à nos besoins? Le premier besoin dont j'ai parlé, c'est ce besoin physiologique. Et Jésus, est-ce qu'il ne dit pas, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il ajoute, en Luc chapitre 12, au verset 29 et 30, « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Et le verset ensuite, c'est « Cherchez, cherchez quoi ? Le royaume de Dieu, car toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Notre Dieu qui nous appelle nous dit que nos besoins les plus basiques, il y répond. Mais encore, ce besoin de sécurité, Jésus y répond en Matthieu chapitre 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce troisième besoin qui est important et effectivement qui nous met en relation les uns aux autres, la parole nous y répond également. Jésus nous dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes son troupeau. Nous sommes le troupeau de Jésus. Et en 1 Corinthiens chapitre 12, on parle plus d'intégration. « Vous êtes le corps du Christ ». Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun d'entre nous, individuellement, nous sommes membres du corps du Christ. Je continue dans la liste de nos besoins, ce besoin d'estime qui parfois confine à l'orgueil. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, et en ayant perdu une, ne laisse les 99 au désert et ne s'en aille après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et l'ayant trouvée, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. Et étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant « Réjouissez-vous, car moi j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » J'ai été impressionné par la considération qu'on pouvait apporter à la communauté des croyants chez les musulmans. Parce que la communauté des croyants chez les musulmans, est-ce que vous savez comment on l'appelle ? La Oumma. Et la Oumma, c'est une assemblée. Aucune tête ne doit dépasser. Et elle avance comme un seul homme. Elle doit avancer comme un seul homme. Or, on voit ces derniers temps que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais elle doit avancer comme un seul homme. Mais c'est parce que Dieu nous appelle à vivre. Dieu nous appelle tous individuellement à nous tourner vers lui. Il nous appelle tous un par un. Et ce qui ne confine pas à de l'orgueil, mais simplement à de la considération et de l'amour, c'est qu'il nous considère comme sa création. Il nous considère comme sa création. Jésus a changé notre état de pécheur, qui ne méritait ni son pardon, pas même son regard. Et Jésus a quitté son trône pour nous réconcilier avec son Père, tous individuellement, chacun. Et enfin, ce dernier besoin, en ce qui concerne le besoin d'accomplissement de soi, Paul a connu cet état lorsqu'il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Paul réalise pleinement sa condition d'homme lorsqu'il laisse Christ agir en lui. De même, nous accomplissons pleinement lorsque le Saint-Esprit agit en nous. Et ce n'est pas simplement nous-mêmes, mais nous sommes dépassés par Christ et par son Esprit. Alors, ce dernier besoin, ce besoin d'éternité, comme je l'ai dit avant, c'est de remporter le prix de la vocation céleste. Être au ciel avec notre Père pour l'éternité. Ceci étant dit, cela suffit-il pour être motivé? Est-ce qu'on a besoin d'un bon pep talk, comme on l'a vu dans le film? Est-ce qu'on a besoin d'un discours de motivation? Est-ce qu'on a besoin d'un coach? Jésus répond à tous nos besoins. Et c'est en réalité, c'est ce qui doit suffire pour nous soumettre à la vérité. Et c'est ça qui est important. Et nous sommes appelés à servir Dieu, non pas parce que nous sommes motivés, pas parce que nous en avons envie, parce qu'on s'est levé du bon pied ce matin, mais simplement parce qu'il est digne. Lorsque Dieu envoie Moïse, il lui dit pas, écoute, mon grand, j'ai confiance en toi, tu es le plus fort, tu es le plus beau, allez, je t'envoie. Il lui dit simplement, je suis l'Éternel, ton Dieu. Notre Seigneur nous dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ma grâce te suffit. Nous n'avons pas adhéré à un club. Nous n'avons pas adhéré à un cercle de jeu ou à quelque chose comme ça, une association. Nous ne sommes pas ici en pensant à nous en premier. Nous ne sommes pas ici pour nous faire du bien à nous-mêmes. Mais nous sommes là pour répondre à l'appel de notre maître. Et c'est ainsi que nous avons cette nouvelle matrice, sans hiérarchie. Jésus est notre Père qui est la seule réponse à tous nos besoins dans nos vies. Et on se retrouve avec non plus cette pyramide, mais cette matrice qui va en cercle, et Jésus est le centre. Que ce soit pour nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité, nos besoins d'estime, d'accomplissement, d'appartenance, et en dernier lieu, ce besoin d'éternité, Jésus est la réponse à nos besoins. De motivation, il n'y a pas d'autre motivation que Jésus. Alors, mon message, il est simple, faisons de lui le centre de notre vie, que nous ne soyons pas centrés sur nous-mêmes, centrés sur nos besoins, mais que Jésus soit seul la réponse de nos vies.